Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Take Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner. Et merci à vous d'être là une nouvelle fois pour m'accompagner durant cette troisième saison. Florian Doueto est un homme de son temps, basé à Paris, dirigeant une entreprise née en France et dont le siège est à New York. Il voyage désormais aussi en Asie pour aider au lancement de l'activité de Dataiku, où les promesses sont sans limite. Discret et peu présent dans les médias, cet entrepreneur a pourtant convaincu les fonds stars de la Silicon Valley, ceux qui ont soutenu Airbnb, Stripe, Adobe et tout récemment celui de Google, Capital J. Ce nouvel actionnaire permet à son entreprise d'entrer dans le sérail des licornes, ces entreprises tech valorisées plus d'un milliard de dollars. Il me reçoit chez lui, dans l'Est parisien, pour une conversation qui, je l'espère, vous passionnera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre en vous abonnant sur les différentes plateformes et à nous laisser un petit message. Je suis Guillaume Brégeras, journaliste aux Échos, et vous écoutez Take Off. Je vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie de Florian Doueto. Florian, bonjour, merci de me recevoir chez toi, donc à Paris. Première question que je pose à chacun de mes invités, c'est quelle est ta routine le matin ? Si tu en as une.
Oh non, j'en ai pas vraiment. Je crois que j'essaie de me réveiller déjà, c'est bien. J'ai une routine un peu originale, c'est que comme souvent je travaille tard, parce que je travaille souvent décalé avec les US, ça m'arrive assez souvent de ne pas mettre de réveil le matin. Parce que je pense qu'au fond, on a souvent besoin d'un sommeil qu'on ne sait pas mesurer, et que du coup, se réveiller sans réveil, quand on arrive à le faire, c'est très bien.
Donc tu n'as pas de problème de sommeil.
J'ai pas de problème de sommeil. Alors après, je dois avouer que comme j'étais aux US la semaine dernière, là, mon réveil naturel, c'est plutôt... je pense que ce serait plutôt 9h30-10h, là. Cette semaine, vu que j'étais décalé de 6h. Sinon, j'arrive à faire 7-8.
Donc ça, le siège de Dataiku est aux États-Unis. On va en parler tout à l'heure. Donc tu as des bureaux également en Asie, je crois. Donc comment tu gères justement ce temps au quotidien? Comment tu arrives à trouver, à caler un rythme?
Je vais aux États-Unis à peu près 8-9 fois par an. J'y passe une semaine ou deux. Souvent, toujours au même endroit, c'est-à-dire que je vais à New York, là où il y a la plupart des employés américains de Dataiku. Et sinon, je passe l'essentiel de mon temps ici à Paris, puis plus quelques voyages.
D'accord.
Je vais pas en Asie assez souvent. J'ai même jamais été au Japon.
Bah écoute, c'est un appel pour le prochain rachat d'une boîte de Dataiku. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment aux néophytes, parce que c'est vrai que dans l'écosystème startup Dataiku, on connaît, c'est une boîte reconnue, le parcours, on va l'évoquer après. En revanche, pour les gens qui ne te connaissent pas du tout, qui ne connaissent pas du tout Dataiku, comment simplement tu peux l'expliquer?
Je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y en a quand même beaucoup qui utilisent des données au quotidien, c'est-à-dire qui voient que... dans leur métier, dans leur vie de tous les jours, ils ont besoin, dans leur entreprise, de croiser des fichiers, de faire des stats, d'essayer de comprendre quelle est la tendance de quelque chose, etc. Et en fait, c'est une tendance de fond de la société qui est que les décisions dans l'entreprise deviennent de plus en plus gouvernées par les données. C'est-à-dire qu'on, pour prendre une décision, c'est pas juste le PowerPoint et la capacité de fabriquer un PowerPoint qui va faire foi, c'est le fait de pouvoir regarder quelle était la tendance, comment sont comportés les clients, quel est, je sais pas, le pricing des concurrents, quel est le taux de panne de quelque chose. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on comprend les décisions. Et l'enjeu des sociétés, du coup, c'est que les volumes ou les données qui sont utilisées pour prendre les décisions sont de plus en plus complexes, elles sont de plus en plus volumineuses. Et en fait, il faut qu'il y ait tout le monde dans la société, potentiellement, le plus en plus de gens en tout cas, qui soient capables de, par eux-mêmes en fait, manipuler les données et prendre leurs décisions. Et Dataiku, c'est un outil qui permet de libérer les gens dans une entreprise qui ne sont pas des techniciens, enfin qui ne sont pas des codeurs, qui ne sont pas des gens qui ont appris ça à l'école, pour leur permettre, en fait, eux aussi, de participer à cette révolution. C'est-à-dire de prendre des données potentiellement un peu grosses, de les croiser, de faire des choses intéressantes avec, de fabriquer des modèles qui permettent de faire des prévisions, sans avoir besoin de retourner à l'école et d'apprendre à faire du Python, du Java, du machin, de la stat, etc.
On peut même être mauvais en maths.
Oui, alors après, moi j'ai toujours il n'y a pas non plus de magie complète dans l'univers. On peut être mauvais en maths, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Ça veut dire pas avoir été bon en maths à l'école? Ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas capable d'être bon en maths, en fait, déjà. Mais il n'y a pas de magie complète au sens où... faut quelqu'un, comment dire, la personne qui prend une décision, faut qu'elle comprenne qu'est-ce que c'est que les ordres de grandeur, faut qu'elle comprenne qu'il y a des choses absurdes, parce que potentiellement, quand on croise les données, on peut leur faire dire n'importe quoi. Et donc, c'est ça, en fait, qui est important, c'est qu'en fait, il faut que les gens qui aient la jugeote, au sens qui, c'est très contextuel, c'est-à-dire qu'ils comprennent l'enjeu métier, qu'ils comprennent c'est quoi les ordres de grandeur, qu'ils comprennent que ça sert à rien de comparer des carottes et des pommes. Enfin, c'est jamais des carottes et des pommes, c'est quelque chose. Chaque métier a sa carotte et sa pomme. Il faut que cette personne-là soit en effet capable de faire les choses. Et du coup, souvent, elle n'est pas mauvaise en maths, entre guillemets, puisque finalement, elle doit être capable de comprendre dans son contexte c'est quoi la maths de son contexte, de son métier, en fait.
D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'une personne qui pourrait être en service marketing ou autre, qui utilise...
Le service marketing, c'est... Comment on a l'impression que le big data, c'est à propos de la donnée client pour 90%, alors que c'est pas tout à fait ça, hein, mais bon, c'est vrai que souvent, c'est les types d'exemples qui reviennent. L'enjeu pour quelqu'un au marketing, ça peut être, par exemple, de comprendre quel est l'impact d'une campagne marketing. Quand je croise une donnée qui vient de YouTube, les données des réseaux sociaux, de Twitter, les campagnes que j'ai faites, c'est-à-dire combien j'ai dépensé chaque jour et dans quels médias, les mots-clés qui ressortent, croiser ces choses-là pour comprendre si ma campagne a un impact ou pas. C'est-à-dire, est-ce que ça fait du sens de faire du pré-roll sur YouTube en poussant tel message sur ma marque? Est-ce que je vois un impact parmi les influenceurs ou pas, par exemple? Par exemple.
D'accord.
Et en fonction de ça, peut-être que je vais doubler mon budget campagne online ou plutôt le réduire, ou peut-être m'apercevoir que ça ne sert à rien de le faire le week-end, visiblement, et donc du coup... de changer un petit peu ma stratégie.
Donc, Dataiku, on comprend un petit peu mieux ce que c'est avec cette explication. Tu l'as lancé en 2013, il me semble.
Oui, tout à fait. Ouais.
Qu'est-ce qui t'a amené vers l'entrepreneuriat? Parce que tu n'as pas démarré, tu as un parcours un peu atypique dans le milieu des startups. En tout cas, tu as fait une grande école dans Malsup. Et ensuite, tu es passé par le milieu de l'entreprise. Qu'est-ce qui t'a ramené de ce côté-là?
Alors, c'est marrant comme question, parce que j'ai l'impression que j'ai le parcours le plus typique du start-upper. Mais après...
J'en croise pas beaucoup des normatifs.
Ouais. En fait, moi, j'ai toujours travaillé dans des start-up. Donc, du coup, je ne sais pas ce que c'est qu'une entreprise. J'ai dû passer 6 mois après un rachat, une fois, dans une grande entreprise, au sens d'une entreprise de plus de 1000 personnes. Sinon, j'ai toujours travaillé dans des start-up. Donc, du coup... Et ce qui m'est arrivé, c'est qu'en effet, j' ai fait Normalsup. Donc Normalsup, j'espère que la plupart des auditeurs ne savent pas ce que c'est que Normalsup, mais c'est essentiellement une école française qui est assez merveilleuse, en fait, parce que c'est une école de liberté pour chercheurs, essentiellement. C'est-à-dire pour ceux qui vont faire de la recherche en littérature, en histoire, en sociologie, en biologie, en sciences cognitives, en mathématiques, en physique, etc. Et en fait, il y a deux choses à Normalsup qu'on trouve, c'est un, on trouve pas mal de gens intelligents, en fait, ce qui permet de se remettre en cause, parce qu'en fait, là-bas, en fait, il y a pas mal de gens qui ont des idées sur à peu près tout et n'importe quoi, donc ça permet de se remettre en cause. Et deux, c'est une école de liberté, parce qu'en fait, si on le veut vraiment, là-bas, on fait vraiment ce qu'on veut. Ce qui est rare, hein. Parce qu'en fait, moi, de la liberté, j'ai eu la chance de l'avoir, quoi. Bah, à 19 ans, j'étais libre de choisir quasiment tout ce que je voulais voir, enfin, ce que je voulais faire, quoi. Enfin, si on le prend bien, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut le faire. Et donc, du coup, à 20 ans, au lieu d'aller faire une thèse en mathématiques ou informatique ou je ne sais pas quoi, et donc me mettre dans un parcours de recherche, quand j'avais 20 ans, c'était en 2000, hein, donc c'était pré-bulle, hein, pré-première bulle Internet. Donc, je ne parle pas de la deuxième bulle ou de la troisième bulle, d'ailleurs, je ne sais pas dans quelle bulle on est en ce moment, mais c'était pré-première bulle. Hein. Et du coup, moi, ça me paraissait évident que pour être dans le nouveau, il fallait aller faire une start-up. Après, à 20 ans, quand on était en 2000, en tout cas, à cette époque-là, on n'allait pas faire une start-up par soi-même. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on était encore à 6 mois lumière de la Silicon Valley. 6 mois lumière, ça veut dire que ça mettait au moins 6 mois pour que quelque chose qui vienne de la Silicon Valley, que l'information arrive à Paris. Hein, on était un petit peu décalé à l'époque en France. Hein, même, pas tout le monde peut-être, hein, mais pas tout le monde. On était un petit peu décalé. Donc pour moi, c'était, j'ai eu la chance en fait, de pouvoir rentrer dans une start-up à 20 ans et d'y passer 10 ans, où j'ai appris plein de choses en fait.
Et c'était un choix, tu l'as choisi cette start-up,
c'est des gens que j'ai eu la chance de rencontrer, essentiellement en faisant un stage, en essayant de me... Et après, j'ai juste voulu rester, quoi.
Et t'as fait une thèse chez eux ?
Non, j'ai commencé une thèse chez eux, mais je dois avouer qu'en fait...
Quelle est la vraie histoire ?
La vraie histoire, c'est que je voulais aller dans la start-up, c'est que je voulais travailler, c'est que je voulais faire des choses. Et donc, du coup... j'ai jamais vu une thèse comme étant un objectif, du coup.
Et donc, tu l'as abandonné rapidement ou pas ?
Oui, je l'ai jamais vraiment commencé, ma thèse, si on est très honnête.
Quel est ton rapport à ce moment-là aux données, puisque c'est ce qui t'occupe aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les données, on va y revenir, mais 10 ans en arrière, ou 20 ans en arrière quasiment, comment tu revois ce sujet ?
20 ans en arrière, on le prenait autrement. À l'époque, je travaillais sur des moteurs de recherche. Donc, les données, c'était... L'enjeu des données à l'époque, c'était le web qui grandissait, en fait. Il n'y avait pas les données de capteurs, les données de publicité en ligne, etc. C'est des choses qui n'existaient pas. Et l'univers même des données financières, c'était un univers qui était encore très clos et vu différemment. Donc, c'est vrai que c'était plutôt ça, les données. C'était les données, on disait non structurées à l'époque. Ça veut dire essentiellement les données textes qu'on trouve sur le web ou un peu partout ailleurs et comment est-ce qu'on arrive à les rendre accessibles, les classifier, etc. Donc, on faisait parfois un peu, on faisait effectivement du l'apprentissage automatique, quoi, du machine learning, même à l'époque. Mais les enjeux, c'était pas des enjeux d'usage, hein, c'était beaucoup des enjeux technologiques. C'était l'enjeu de réinventer la roue pour essayer de faire marcher quelque chose qui était dur à faire marcher. Mais on était très naïfs à l'époque. Hein. On essayait de refaire Google sans savoir que Google existait ou presque. Enfin, donc, c'était une forme de naïveté qui me manque un peu.
Ça a évidemment beaucoup évolué en 20 ans, mais quelles étaient les entreprises qui te faisaient, si ce n'est rêver, en tout cas sur lesquelles tu te disais, tiens, là, ils ont mis le doigt sur quelque chose, peut-être que ça peut grandir. On rappelle qu'à l'époque, Facebook n'existait pas, Google était assez balbutiement.
C'était quand même beaucoup les moteurs de recherche, en fait, quand même, à l'époque, qui... C'était les Google, il y avait les Google, il y avait les Yahoo, c'était quand même beaucoup ça, l'univers de l'époque qui, du point de vue des gens qui venaient de la technologie, faisait rêver sur le web. Parce qu'en fait, c'était à l'époque souvent surtout ça et les e-commerçants, en fait, qui changeaient l'écosystème. Mais de là où on était, en fait, on voyait pas. Moi, je me souviens très bien qu'en 2000, je savais pas que Amazon existait, en fait. Et Google, on le voyait encore de très loin, presque. Enfin, on commençait à l'utiliser. Et donc, il y avait. C'était surtout ça, je pense.
Et à quel moment tu sens que ces entreprises, en tout cas celles qu'on vient de nommer, vont fondamentalement changer la donne avec ce qu'on sait, mais est-ce qu'il y a un moment pivot dans ces années 2000 où tu vois les choses changer ?
Je pense qu'il y a quand même le moment, qui est quand même à la fin des années 2000, où il y a Facebook qui d'un coup surgit, devient prédominant. En fait, que c'est plus juste l'histoire que c'est plus juste l'histoire de Google, mais que c'est l'histoire de plusieurs entreprises, en fait. Enfin, qui vont, en fait, créer tout notre univers de médias. Enfin, il y a à la fois ça, il y a la sortie de l'iPhone, du premier iPhone, etc. Et là, on sent que tout est en train de changer. Et en même temps, il y a vers 2008, en fait, il y a le moment où on comprend. Il commence à y avoir une nouvelle idée de ce que ça peut être la start-up en France, en fait. Aussi, il commence à avoir une deuxième génération de start-up où on se dit, où les modèles de start-up de la Silicon Valley et cette culture, en fait, commencent à arriver en France. Et commence à avoir un process d'acculturation en France dans lequel le Français qui veut se construire une carrière dans l'entreprise pense plus... ou de moins en moins en termes de carrière dans le conseil aux entreprises ou carrière dans la finance, etc. Mais comment ça se pensait en tant que start-upper et entrepreneur? Ça commence à prendre à ce moment-là vers les 2009-2010, je pense.
C'est qui les premières entreprises ou les premiers entrepreneurs dont tu te rappelles, français, qui t'ont marqué à l'époque?
Je pense que je ne suis pas marqué par les entrepreneurs à l'époque parce qu'en fait, à l'époque, l'écosystème n'est quand même pas très connecté. Enfin, en tout cas, moi, je ne le vois pas très connecté parce que je suis encore dans une start-up depuis 10 ans. Donc, à part... En fait, il n'y a pas grand monde, quoi. Enfin, à l'époque, je connais Oussama. Mm-hmm. Voilà. Et
Oussama de The Family.
Ouais. Et c'est à peu près tout. Et après, des gens que je rencontre par hasard.
C'est encore le No Man's Land.
Après, je rencontre aussi un peu comme ça par hasard les gens de Criteo, mm-hmm. qui sont des gentils, donc c'est marrant. En fait, on s'aperçoit. C'est hyper intéressant en fait de rencontrer des autres entrepreneurs avant de commencer, je pense, parce que il y a quand même plusieurs styles d'entrepreneurs. Hein. Et moi, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gentils et pas juste des. Enfin, et pas qu'il n'y a pas besoin d'être.
T'as rencontré des méchants aussi?
Non, mais c'est pas des méchants. Mais je veux dire, il y a l'opposé de gentil. Dans ce cas-là, c'est jamais méchant. C'est agressif ou agressif ou conciliant.
Et Criteo, tu peux m'en parler un petit peu? Tu as fait quelques missions freelance chez eux, je crois.
Oui, tout à fait, ouais. C'était très intéressant de les voir évoluer, en fait, parce que là, c'était vraiment la société qui grandissait, qui se transformait. C'était juste pré-IPO, ouais. Donc, juste avant qu'ils rentrent en bourse. Et où il y avait toujours des... Je crois qu'il y avait des dizaines de gens qui arrivaient chaque semaine, c'est possible ça, peut-être? Au moins chaque mois, ouais. Des déménagements de locaux, de l'organisation et de la réorganisation. Enfin, on sentait c'était bouillant. Et puis en plus, c'était à l'époque, en tout cas, une des seules entreprises françaises qui avait effectivement des données. Mmh. Dans le sens qu'il y avait effectivement des problèmes de données à l'échelle du pétaoctet, quoi. Enfin, c'est-à-dire à des échelles comparables aux acteurs américains. C'était dans son endroit en France.
Et tu avais rencontré à l'époque Jean-Baptiste Rudel ou ses autres cofondateurs?
Surtout Romain Nicoli et Franck Loé. Mmh. Et qui m'ont en fait beaucoup aidé en fait, en un sens, dans la réflexion.
Comment? Tu peux développer un peu?
Je pense que c'est juste leur manière d'être et le fait que travailler avec eux me donnait l'occasion de réfléchir tout en ayant pas mal de liberté qui m'a aidé en fait, à me dire que je pouvais... facilement, enfin, en tout cas que je pouvais lancer ma startup.
Et à quel moment tu décides de te lancer justement? Est-ce qu'il y a un déclic? C'est un process qui mûrit lentement?
Ah, moi je suis un peu lent, ça m'a pris un an et demi, deux ans entre le fait d'arrêter de travailler en tant que salarié dans la première entreprise dans laquelle j'avais travaillé, la seule entreprise, et le fait de lancer effectivement une start-up où je regardais les choses à gauche, à droite. J'avais la chance d'avoir un peu... Enfin, de pouvoir travailler en freelance, etc. à l'époque. C'est magnifique. Hein, quand on a des compétences techniques, c'est quand même un peu plus facile de trouver des jobs en freelance à Paris, dans l'univers de la tech. Et moi, je me souviens très bien qu'à l'époque, j'avais ce petit carnet de start-up, ce petit carnet d'idées dans lequel on note des idées... Souvent quand même un peu original, hein. Enfin original au sens de pas très bonne. C'est market. Alors et c'est souvent quand on regarde a posteriori, c'est souvent une combinaison de un univers un peu abscon et de une marketplace, enfin une place de marché, une marketplace, un outil de facilitation, une plateforme pour je ne sais pas quoi, etc. Et en fait j'ai essayé de donner des idées, d'y réfléchir. Et à la fin, comment j'ai décidé? Ben à la fin, j'ai surtout rencontré des gens, enfin, j'ai trouvé dans mon univers pro de gens avec qui j'ai travaillé, des gens qui voulaient commencer quelque chose. Et je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais finalement, j'ai lancé la start-up en me disant que, en raisonnant par l'absurde, je ne sais pas si c'est une bonne idée de raisonner par l'absurde, mais souvent quand même je le fais comme ça. Mmh. C'est, si ça marche, il faut que je puisse le faire pendant 10 ans. Ou 15, quoi. Ok, 10-15 ans, c'est plus long que la plupart des relations qu'on a, euh, qu'on a avec même quelqu'un, hein, dans, en tout cas en Île-de-France. Quoi. Et c'est long, hein, c'est long 10 ans. C'est, donc c'est plus long que la plupart des mariages. Je ne sais pas c'est quoi la durée moyenne d'un mariage en Île-de-France.
Bonne
je pense
question.
Que c'est, je pense qu'on n'est pas très, on n'est pas très élevé. Donc 10-15 ans, c'est long. Et donc c'est un marathon. Et je ne fais pas un marathon, mais en tout cas, c'est un marathon. Et donc, du coup, il faut vraiment que je fasse quelque chose où je me sens naturel. C'est-à-dire où dans 10 ans, je ne vais pas me dire « Ouh là 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 là, ça fait trop longtemps, je n'ai plus envie de voir ces clients-là ou ces utilisateurs-là. » Et où je serai aussi... Et a priori, si on fait une start-up, c'est pour être... Alors, ce n'est pas pour être le chef, pour être le chef, mais en tout cas, c'est pour chercher une forme de liberté qui fait que on n'a pas besoin de se poser la question de ne... qu'on n'a pas besoin de se poser la question de la légitimité, je pense. Sinon, c'est vrai que c'est compliqué. En tout cas, pour moi, c'était ça. Je ne savais pas si c'était pour redevenir salarié au bout de 3 ans de start-up ou implicitement.
Aucun intérêt.
Okay, aucun intérêt. Et donc, du coup, on va faire le plus simple. Alors, est-ce que je sais à peu près ce que c'est les trucs de data, données, etc. Bah, plus ou moins. Bon, ça fait quand même 10-15 ans que je fais ça. Ok, ça va. Et bon, un, deux, bah, du coup... Et à la fin, moi, j'aime bien faire des plateformes et des trucs techniques. Donc, je vais faire ça. Et trois, au fond, l'autre chose, c'est que je ne connaissais aucun métier. Comme j'avais bossé que dans des startups, je ne connaissais aucun métier au sens propre du terme. C'est-à-dire que ce soit, je ne sais pas, le média ou l'advertising ou la logistique ou le commerce ou la finance. En fait, je n'avais jamais vraiment travaillé. Hein. Je n'ai jamais fait que du logiciel dans ma vie. Donc, comme je ne connais aucun métier, si je commence à travailler dans un métier, il y a un moment où je ne serai pas légitime. Hein, parce que finalement, moi, je n'y connais rien en marketing. Je n'y connais rien en médecine. Je n'y connais rien en place de marché. Enfin, je n'y connais rien à tout ça. Quoi. Et je ne savais même pas si j'avais envie d'apprendre. Donc, du coup, autant aller faire les choses pour lesquelles on est légitime et on a le moins besoin d'apprendre des choses, en un sens.
Et donc, de ce fameux carnet de notes, là, tu l'as toujours d'ailleurs ou pas?
Ah, j'espère que non.
Il y a peut-être des bonnes idées dedans. Encore non, tu doutes?
Je suis pas sûr.
Et souvent, on m'explique, et ça c'était, je crois, je ne sais plus lequel m'avait raconté, mais qu'il avait écrit le script des 10 ans, bah, je crois que c'était De Vialet justement. Il avait écrit dès le départ toute l'histoire et tous les développements à venir. Est-ce que tu es dans ce cas-là ou toi tu es plutôt dans une croissance ou en tout cas une écriture de l'histoire plus organique?
En tout cas, je ne l'ai pas écrit, mais après, ça reste quand même assez proche de ce que je m'étais imaginé. Bah, le point, après, qui est presque ennuyeux, moi, je n'ai pas compris encore comment on faisait une start-up, hein, et je ne saurais pas le répéter. Je pense qu'il y a quelque chose qui a une sorte de magie, qui est vraiment de la chance, qui est trouver des gens avec qui travailler, avec lesquels on s'entend. Et en fait, ça, c'est quand même pas mal de chance. Hein. Et c'est là où je ne comprends pas comment on fait pour commencer une start-up à 20 ans. C'est que pour connaître des gens, en tout cas, moi, ça m'a pris du temps. Hein. Mais bon, après, il y a des gens qui sont beaucoup plus rapides pour ça. Mais donc, il faut connaître des gens qui en avoir confiance, qui ont des compétences qui fait qu'on a tous ensemble, on va y arriver. Donc ça, déjà, un, ça, c'est de la chance. Et deux, il y a le fait... à un moment, d'être capable de construire un produit qui a un fit avec un marché. Et alors là, après, même si je pense qu'indépendamment du fait d'être stratège ou analyste ou de son marché ou bien le connaître, là, aussi, il y a de la chance. Parce que même en réfléchissant beaucoup et en se disant qu'on remplit un besoin de marché, etc., le fait est, c'est quand on se confronte à la réalité, bah, des fois, ça marche et des fois, ça ne marche pas. Ce n'est pas vraiment une question d'intelligence ou de manque d'analyse. Souvent, c'est vraiment... Il y a souvent un petit truc magique, en fait. Hein. Sinon, ce serait trop facile. Hein. Et donc, le point, c'est que quand on a par hasard ces deux trucs-là qui arrivent et qu'en plus, on est plutôt dans... Après, que l'univers, au sens... Enfin, je sais pas, il y a pas de grosse crise mondiale, etc., etc. Finalement, ça reste assez simple, pourvu qu'on a ces choses magiques qui arrivent finalement, de faire grossir une boîte. Et surtout dans le logiciel, quand on vend du logiciel sous forme de souscription, il y a quand même des éléments qui sont assez répétitifs. J'ai l'impression dans le schéma des boîtes qui fonctionnent en fait. Après, quand on regarde les chiffres, c'est un peu, alors on commence, on trouve. Les premiers mois, on vend à ses premiers clients, on a une sorte de fit avec le marché, on arrive à peu près à vendre pour 1 million, quoi. On va dire. Ça paraît déjà énorme, hein. En tout cas, moi, à l'époque, ça me paraissait énorme. Mais en fait, 1 million, ça veut dire quoi? 1 million, ça veut dire que, a priori, le projet n'est pas ridicule. Et, a priori, il y a quand même des gens qui ont mis de les sous, qui étaient capables de payer pour ça. Ok, donc là, après, si on veut, on peut continuer, on peut commencer à lever un peu de sous, et hop,
grosso modo, on commence à embaucher des équipes de vente. Parce que c'est du logiciel donc, et qu'on vend aux entreprises. Donc, il faut bien des. Bon, d'une manière ou d'une autre, il faut bien des vendeurs. Et là, souvent, on essaie de tripler chaque année. Donc, on va faire 1, 3, puis après, 3, 10, puis après. Alors, est-ce qu'on triple encore là ? Mais 3, 10, 30, ouais, presque. OK. Et donc, comme ça, en 2-3 ans, on arrive à une boîte qui fait 30 millions ou presque chaque année. Et après, bon, passer de 30 à 100.
Plus compliqué.
C'est un peu plus compliqué. Donc, là, souvent, en fait, la plupart des boîtes, mais c'est vrai que là, c'est vrai pour. Les Salesforce, les DocuSign, enfin, toutes les boîtes de tech dont on entend parler à la télé, quoi. Enfin, à la télé, oui, si on regarde certains types d'émissions. C'est après, elle double, quoi. 30, 60, 100, etc., etc. Et après, le nombre d'employés varie en fonction, en fait. Et les enjeux sont assez similaires, presque. C'est-à-dire, à un certain moment... vu le nombre d'employés, ben, faut rajouter des niveaux supplémentaires de management. Donc, ça change quelque chose dans la culture d'entreprise, etc. On ouvre des bureaux, donc ça pose certains challenges, etc. En fait, tous ces schémas-là sont très similaires en fait, d'une entreprise à l'autre. Et c'est là où, en fait, c'est là qu'on se dit, c'est là où on se demande finalement si l'histoire n'est pas écrite, au sens où quand ça marche, dans ce schéma, dans
le schéma en tout cas,
où on a un produit et un seul qui marche sur un type de marché qu'on a déjà identifié au début, qu'il n'y a pas une crise cataclysmique ou un pivot à faire, ou etc., le schéma est relativement similaire. Et après, moi, il me paraît similaire maintenant. Au début, il ne me paraissait pas similaire. Et je pense qu'il apparaît beaucoup plus similaire quand on est dans un écosystème comme, l'ouest des États-Unis, parce qu'en fait, on a autour de soi potentiellement plein de gens qui ont vécu ce schéma-là. C'est vrai qu'en France, à Paris, capitale de la France, bon, on se sent un petit peu tout seul, quoi. Enfin, tout seul parmi les 4 ou 5 personnes qu'on connaît qui sont en train de faire la même chose, quoi.
Il y en a certaines qui t'ont aidé, justement, dans cette croissance, qui t'ont aidé à schématiser ce modèle qui est effectivement très répandu côté Silicon Valley.
Ouais. Et qu'est-ce qui m'a aidé ? En fait, au début, par exemple, au début de Taiku, j'ai beaucoup travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Amélie Faure. Et elle avait juste cette chose inouïe d'être une bonne personne, déjà, ce qui n'est pas rare. Et deux, d'avoir effectivement travaillé dans des boîtes de logiciels pendant 10, 15, 20 ans, en les montant, etc. Et en fait, rien que ça, à Paris, en fait, c'était inestimable. Parce que pour moi, sinon, il y avait des choses de base. Quoi. Comme à la base, je suis plutôt quand même un ingénieur. Quoi. Donc, monter des équipes de vente, faire ces choses-là, c'est un peu abstrait.
T'as dû forcer un peu là-dessus ou pas ?
Pas vraiment. En fait, pas vraiment. C'est-à-dire que c'était abstrait, mais après, comme j'avais toujours et que j'ai toujours travaillé dans les entreprises de logiciels, en fait, il y a quand même quelque chose qui me paraît complètement naturel dans cette chaîne de valeur, quoi. C'est-à-dire, ça commence avec le produit, il faut comprendre le marketing du produit, son positionnement, après, il faut le vendre, et il y a plusieurs... Enfin, pour moi, ça me paraît naturel, en fait. C'est-à-dire, je comprends à peu près tous les métiers, je pourrais faire à peu près tous les métiers de ma boîte, je pense, actuellement, encore.
Y compris la vente ?
Y compris la vente. Là, il faudrait peut-être que je me force un peu, mais je pourrais faire l'avant-vente. L'avant-vente, je pourrais faire... Ouais, l'avant-vente, je sais faire. La vente elle-même, je peux me forcer un petit peu, mais je vois ce que c'est, quoi, tu vois. Je vois très bien ce que c'est. Et donc, en ce sens-là, je n'ai pas pu me forcer. Mais par contre, pour prendre la posture de la construction et du manager, faut un peu c'est bien d'avoir quelqu'un qui aide à se prendre du recul. Parce que réinventer la roue sur de la construction d'entreprise, ça n'a aucun intérêt. Enfin, autant réinventer la roue sur son produit, hein, si on veut réinventer la roue.
Et tu te souviens du premier client, d'ailleurs ? Parce que souvent, on dit que le plus dur, c'est d'aller chercher ses premiers clients, d'aller les convaincre. Est-ce que tu t'en souviens ?
Je ne me souviens pas de qui était le premier. On avait trois à peu près en même temps, qui étaient... c'était les Passes Jaunes, c'était Vente Privée, et c'était Parkéon. Parkéon, ils font les eurodateurs, par exemple, à Paris. Donc, des entreprises très différentes. Et c'était intéressant.
Comment tu convaincs ces entreprises quand tu es au tout début ? C'est quand même des grands groupes qui réalisent des millions d'euros de chiffre d'affaires.
Là, c'est des histoires de confiance parce qu'en fait, dans un produit qui commence, là, c'est des gens que je connaissais assez littéralement. Enfin, que je connaissais. C'est-à-dire que j'avais déjà vu précédemment dans ma carrière
les acheteurs pratiques de ces qui de ces sociétés là en fait.
D'accord.
C'est là aussi où je veux dire on a de la chance etc. Mais moi, par exemple je sais pas là pareil il y a 20 ans je sais pas comment j'aurais fait pour vendre du logiciel vu que c'est vrai que les premières ventes c'est quand même beaucoup plus simple si on connaît déjà les gens. Enfin il y a pas enfin il y a pas de magie complète dans il y a pas de magie complète dans l'univers hein. Quand on a un produit tout en bêta c'est surtout que sur la data comment dire c'est un peu engageant quoi. Enfin c'est des initiatives souvent un petit peu stratégiques etc. C'est quand même plus simple de trouver des gens qui ont déjà un peu de confiance en fait.
Et je voulais qu'on parle aussi des investisseurs, tu l'as mentionné très rapidement, mais tu as dû lever des fonds, ouais, forcément, à plusieurs reprises. Les premiers à t'avoir fait confiance, c'est lesquels ?
Les tout premiers à avoir fait confiance, c'était Alven Capital et donc à peu près en même temps Serena Capital, donc deux acteurs français.
Et pareil, même question, mais comment tu approches ce sujet ? C'est pas forcément formé à ça, surtout il y a 5 ans, 6 ans ?
Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, surtout qu'à l'époque, personne n'en... Enfin, c'était... Alors, mes premières levées de fonds, c'était il y a 4 ans, hein, 4 ans, 4 ans, c'était après 2 ans de boîte. En fait, j'avais choisi de bootstrapper, je sais même pas comment le dire en français, enfin, en tout cas, de pas lever de fonds pendant les 2 premières années, et on avait cette posture... pas tout à fait naturel dans lequel, enfin pour l'écosystème startup comme on dit, de faire du conseil en data tout en construisant le produit. Ça effrayait un peu les gens parce qu'ils disaient oh, vous allez faire une boîte de conseil etc. Moi ça me stressait pas trop parce que comme j'ai jamais fait des boîtes de produits en fait je vois à peu près que l'important c'est d'avoir des gens dédiés qui fabriquent le produit et après la manière dont on les paye, dont on génère de la marge etc. de manière transitoire c'est pas très grave pourvu qu'on ait une vraie idée du produit en fait. C'est ça qui compte. Donc les 2 premières années comme ça on a bootstrappé c'est aussi parce que j'avais un peu peur des investisseurs à vrai dire. Hein.
Ah oui
j'avais un peu... Ça, bah, moi je suis... Pourquoi ? C'est parce que dans la première entreprise dans laquelle j'étais, très honnêtement, la relation entre les fondateurs et les investisseurs n'était pas très bonne. Hein. Ça m'a appris plein de choses dans la vie, quoi, sur potentiellement la gestion de crise. Mais c'était pas une relation idyllique, voire très très conflictuelle, voire des cris, quoi, comme des cris entre les parents à la maison, quoi. Dans l'entreprise, quoi. Et ça c'est quelque chose qui m'a fait me dire que je voulais toujours être dans la position où je pouvais choisir les gens avec qui je travaillais. Et souvent, c'est là où autant les fondateurs, on les choisit, puis les employés, on les recrute, donc a priori, on les choisit. Hein. Et les investisseurs, souvent, c'est le plus dur en fait, à choisir parce qu'en fait, on se met dans une posture où, comme c'est eux qui achètent. Mais j'ai quand même pu me mettre chaque fois dans la position où j'ai toujours travaillé avec des gens avec qui j'avais envie de travailler. C'est vraiment aussi de la chance. Je pense que c'est une chance qui est aussi liée quand même à l'écosystème qui bougeait. Hein. J'ai eu les... Si quelqu'un... Alors, je pense que personne n'écoutera ça dans 5 ans. Hein, mais... on ne sait jamais avec les podcasts. On ne sait jamais avec les podcasts. Mais l'écosystème d'investissement dans les startups entre 2013 et 2014-2019 est quand même très favorable aux startups parce qu'il y a... l'écosystème financier qui est le montant levé par les investisseurs eux-mêmes qui augmente considérablement sur Terre, plus le fait que, combiné au fait qu'en France, l'écosystème d'investissement grossit, donc du coup devient beaucoup plus favorable aux startups tout d'un coup, combiné au fait que, du point de vue international, la startup française commence à avoir un peu d'attrait, parce que, du point de vue américain, finalement... il y a presque plus d'investisseurs que start-up, donc du coup, investir en Europe fait beaucoup de sens pour des acteurs internationaux.
Et c'est comme ça que tu as été approché par un fonds américain, d'ailleurs, pour un tour suivant.
Ouais. Après, là, l'autre point de vue que j'ai, mais alors là, je suis un peu dès le début de date, l'autre point que j'avais compris quand même en travaillant dans des entreprises de logiciels assez tôt,
c'est qu'il y a quand même un risque stratégique inhérent à la à l'entreprise de logiciels française qui est de rester trop française. Mmh. Et alors, on va se dire, mais pourquoi ? Le marché français, il est grand, etc. Ouais, okay, c'est vrai pour les marchés, pour quand on fait du B2C, quand on fait du B2B, il est quand même pas si grand que ça. Et quand même, structurellement, quand on fait un truc un peu nouveau, il va y souvent y avoir 4, 5, 6... enfin même, on va dire, il va y avoir une vingtaine d'entreprises qui vont s'y mettre en même temps, dont 4-5 qui vont réussir. Et sur ces 4-5, il y en aura 4 aux États-Unis probablement. Et les cycles de développement de logiciels et d'expansion dans les univers d'entreprise, ça dure quelques années, quoi, 2, 3, 4 ans. Enfin, c'est ce que j'ai expliqué. En fait, son product market fit, on a premier client, bon aussi, etc. Et c'est un acteur français qui reste en France et qui a commencé en ayant à peu près la même idée que les acteurs américains. Il peut se retrouver au bout de 4-5 ans dans la situation dans laquelle les acteurs américains ils sont 2, 3, 4, 5, 10 fois plus grands. Ils ont levé plus de sous. Et ils arrivent en France en se disant bon, ben, on va s'installer en France. Alors, souvent, ils ne disent pas on va s'installer en France. Hein, d'ailleurs, on va s'installer en Europe. Mm-hmm. Alors on va adapter les prix, on va embaucher des gens. Alors, ils arrivent des États-Unis, donc ils ont l'impression qu'ils peuvent embaucher tout le monde en payant 150 ou 200 000 euros. C'est l'impression que ça leur paraît tout à fait normal. Et du coup, ils vont commencer comme ça à récupérer tout le marché en étant hyper agressifs, vu qu'a priori, ils ont déjà rentabilisé leurs produits aux États-Unis. Ils peuvent juste décider d'aller écraser les petits acteurs français les uns après les autres, comme ça, quoi. Mm. Et quand même, il y a plein d'acteurs français qui ont fini comme ça et qui sont limités à... Qui arrivent à grossir jusqu'à 50, 100 employés, je ne sais pas, 10 millions de chiffres ou 5-10 millions de chiffres, mais qui, après, sont dans la position peu enviable dans laquelle il y a quelqu'un au-dessus d'eux qui descend de la colline. Quoi.
Et sur, dans le meilleur des cas, ils le rachètent.
Et dans le meilleur des cas, ils le rachètent. Dans et le meilleur des cas, mais...
Ouais. Ce qui arrive pas forcément souvent en plus en France. Donc, à quel moment tu décides, toi, de partir aux États-Unis ? Est-ce que c'est avant le... C'est concomitant avec l'entrée du...
Non, en fait, je pense qu'on a décidé au sens... J'ai revu que c'est, qu'il fallait... De toute façon, qu'il fallait se forcer à faire ça. Mmh. Et du coup, c'est pour ça qu'on va chercher des investisseurs américains autour ou d'après, donc en 2016. Mmh. C'est ça, en 2016.
Ok, et comment tu les choisis ? C'est eux qui te choisissent d'ailleurs, parce qu'à l'époque, aujourd'hui, on voit beaucoup d'investisseurs américains présents.
Ouais, à l'époque c'est, un peu moins. C'est des gens que... À l'époque, c'est quelqu'un qu'on... une société d'investissement qu'on rencontre aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est un match relativement évident. À l'époque, ça reste quand même assez rare. Hein. C'est-à-dire que le fait de lever des fonds aux États-Unis pour un acteur français restait complexe. Et souvent, peu d'acteurs américains investissaient dans des entreprises françaises ou européennes, sauf si elles avaient déjà une présence aux États-Unis, ce qui pour nous n'était pas vraiment le cas. Je ne sais même pas si on avait un employé sur place quand l'investissement s'est fait. Mais en fait, on a rencontré un fonds d'investissement américain qui avait là-bas quelqu'un qui connaissait très bien notre sujet, connaissait bien la data. À vrai dire, est français aussi. Non, mais en fait, ça, il n'y a pas non plus. Mais oui, il n'y a pas de magie complète dans l'univers. Hein. Il y a toujours un peu de. Il y a toujours un peu de ça. Et c'est ça, ça nous aide en fait à faire le pas suivant, qui est de devenir une entreprise qui maintenant fait à peu près la moitié de son chiffre aux États-Unis et l'autre moitié à l'international.
D'accord.
C'est une autre chose qu'on apprend.
Ouais.
C'est qu'en fait, quand on est américain, en fait, on dit 50% à l'international, ça veut dire 50% en dehors des États-Unis. Et c'est amusant. Je ne voyais pas ça comme ça avant. Mais...
Vision un peu différente. C'est eux qui te demandent d'installer le siège social de...
Ouais,
oh,
ouais,
à New York.
À New York, oui. Mais en même temps, ça fait sens pour une entreprise de logiciels d'avoir son siège social aux États-Unis, je pense. Enfin, je ne sais pas. Je me pose aussi la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un siège social, enfin, c'est quoi un headquarter, etc. On est actuellement dans une mode où d'une entreprise un peu différente où il y a comment dire, c'est comme les hémisphères du cerveau, quoi. Il y a un hémisphère à New York et un hémisphère à Paris. Et je l'aime bien comme ça. C'est ça la culture de l'entreprise. Après, le reste, finalement, c'est que des éléments techniques, presque, je pense.
Et toi, il était question que tu t'es posé la question de déménager à New York et d'aller vivre là-bas ou pas?
Jamais vraiment. J'ai des enfants ici. Je sais pas trop comment je ferais pour vivre la plupart du temps là-bas, personnellement. Après, c'est juste des rythmes de vie un peu différents. En fait, le point, c'est quand même, j'ai l'impression que dans notre écosystème, en fait, le mode de travail change. Surtout que depuis quelques années, la vidéoconférence commence à fonctionner. Et du coup, c'est presque, comment dire, c'est pas que je travaille en time zone US, quoi, mais un peu plus, quoi. Et c'est plutôt ça le changement.
D'accord. Et cette trajectoire, ça t'a permis de grandir aux États-Unis, donc de grandir encore plus vite. Tu as relevé un peu plus de 100 millions de dollars fin d'année dernière. Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour toi en termes de perception aussi, peut-être? Parce que vous êtes à peu près 4, je crois, à avoir levé plus de 100 millions en France. Voilà, qu'est-ce que ça a changé? Si ça a changé quelque chose.
C'est pas grand chose. Enfin, c'est plus un plan. Enfin, c'est une étape de développement. C'est une étape de développement. Ça change pas grand chose. Lever plus ou moins. Enfin. Je pense que j'imagine que dans ce podcast, il y a quelques pis-allers, mais alors par exemple, il y en a un, c'est quand même bien de lever des sous quand on n'a pas besoin de le faire.
C'en est un, je te confirme. Non,
c'est ça. Et on s'est quand même toujours un peu positionné comme ça. L'idée, c'est de voir le chemin qui permet d'avoir 2-3 ans de visibilité sur la croissance de l'entreprise, le planifier comme ça, etc. C'est comme ça que je le vois. Après, c'est vrai que ce qui est différent quand même, et presque, je pense que c'est pas l'argent levé, en tout cas pas que ça. Enfin, j'espère d'ailleurs que c'est pas que ça. C'est que maintenant, on est juste une société de logiciels qui fait partie des sociétés de logiciels cloud de la planète Terre, quoi. Parmi les autres. Enfin, c'est pas les 50, 100 ou 200 autres. Qui sont un peu similaires, quoi. On n'est pas juste un acteur français avec un nom un peu étrange.
D'ailleurs, d'où il vient ce nom?
C'est de Data, ça va. Et Haiku, le petit poème japonais entre. Et le poème de la donnée. mais un peu court et un peu mystérieux. Donc du coup, il y a que quelques. Faire partie en fait de cet univers d'entreprises qui ont l'air de marcher, je pense que c'est quand même important. Je pense que c'est quand même important parce qu'en fait ça positionne la société de manière un peu différente.
Et là, c'est la première fois aussi que tu commençais à évoquer clairement le chemin vers l'IPO, vers donc l'introduction en bourse. Avant, je regardais des papiers d'il y a 2-3 ans où tu refusais d'en parler. Donc là, c'est assumé aujourd'hui, c'est ce que tu.
Ouais, après, on le dit aussi parce que c'est. Est-ce qu'on le dit? Bah, parfois, on le dit juste parce qu'il y a rien d'autre à dire, hein, mais ce qui est pas faux. C'est en fait après, et je pense que même. Attends, je suis sûr qu'un deuxième piste allait. L'IPO, ce n'est qu'une étape. Et ce qui est pas faux, hein, c'est que quand on regarde les vraies entreprises, en fait, elles font une IPO et après, elles font quelque chose d'intéressant. Et pour moi, c'est accepter le fait que. Si on construit vraiment une entreprise, l'enjeu, c'est de la rendre adulte, quoi. Moi, j'ai deux ados, hein, donc je vois quelques similarités. C'est avoir sa propre gouvernance, quoi. C'est avoir sa propre gouvernance qui n'est pas juste le fait d'individus qui se trouvent avoir envie de faire quelque chose, quoi. C'est avoir sa propre identité, sa propre culture, travailler... un groupe et en fait faire quelque chose qui perdure au-delà de l'envie de certains individus ou de l'envie de certains investisseurs, etc. En fait, IPO, ça veut juste dire ça. C'est-à-dire comment on fait pour être indépendant plus longtemps.
C'est important pour toi, cette notion d'indépendance. Tu parlais beaucoup de liberté tout à l'heure.
Ouais, mais c'est pas la même chose.
C'est
deux concepts qui sont quand même un peu liés. Mais liés tout en étant dans ce contexte-là, potentiellement un peu en opposition. C'est-à-dire que la liberté, en effet, c'est individuellement pouvoir choisir son destin sur quoi on travaille en tant qu'individu. L'indépendance pour la société, c'est le fait de, en effet, être quelque chose qui perdure dans le temps et a sa propre direction.
Et pourquoi c'est si important pour toi? Tout le monde n'a pas forcément cette envie.
Parce que je pense que en tant que créateur d'entreprise, c'est censé être ça l'objectif. Hein, pour moi, c'est ça l'objectif. L'objectif, au bout d'un moment, n'est pas financier. Parce que finalement, moi, j'ai pas d'appétit financier particulier et j'espère ne jamais être dépendant de l'argent ou d'un mode de vie particulier. Et du coup, après, la seule chose qui fait sens, c'est de construire effectivement quelque chose qui dure dans le temps. Mmh. Enfin, je pense pas que... Puis j'ai déjà vu des rachats d'entreprises. Hein. J'ai déjà des entreprises qui ont été rachetées. Mmh. Finalement, c'est quand même une petite tragédie, mmh. si on est honnête. Mmh. Enfin, en tout cas, c'est dur à... Enfin, il faut arriver à le faire passer. Si on peut construire le chemin d'indépendance, s'il a un sens... Des fois, il a pas de sens. Donc, il faut juste admettre la réalité. Mais s'il a un sens, il faut à tout prix essayer d'aller le chercher.
Mmh. Et tu construis des modèles de prédiction. Est-ce que tu as, dans ces modèles-là, est-ce qu'il y en a un qui est un modèle de... plutôt, qui, si les choses tournaient mal, ou si les choses se passaient mal, est-ce que tu as prédit ce chemin-là ?
Non, je n'ai pas prédit ce chemin-là. Je n'ai pas prédit ce chemin-là. Je pense que dans ce cas-là... en fait, c'est des modèles... Enfin, souvent, quand les choses se passent mal dans ces cas-là, c'est des modèles où il faut savoir se remettre en cause, il faut avoir du courage, se dire que ça va prendre quelques années de plus, etc. Mais que tout va. Mais que voilà, il faudra trouver une solution. C'est plutôt des. Enfin. La vraie chose qui casse quand quelque chose se passe mal dans une entreprise de tech, souvent, c'est la confiance entre les gens. Enfin, c'est la confiance entre les gens. C'est l'envie et la motivation des gens. C'est un peu ça le risque de la tech, en fait, finalement. C'est le risque de la tech moderne. Quand on vit une première vague, comme ça. Parce qu'en fait, par rapport aux écosystèmes américains, là, si on a la première vague, je pense qu'on est quand même en France à une des premières vagues massives de start-up. En tout cas, où la tech en tant que telle devient un univers, on sait qui sont les entrepreneurs, etc. Donc, un phénomène pas tout à fait médiatique, mais entre guillemets pseudo-médiatique. Et là, en fait, il va y avoir une vague aussi de désillusions, quoi, c'est sûr. Enfin, je veux dire, c'est un peu le phénomène de l'entonnoir de start-up fait qu'il y aura des désillusions. Et la question, c'est est-ce qu'on saura le gérer ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des... Il faudra accepter que tout ne fonctionne pas et se remettre en cause et pas taper les gens qui ont raté, etc. Et ou que ceux qui sont dans un trou noir, ils aient les quelques années qu'il faut pour pouvoir en sortir. Et ça, je pense que...
On commence à avoir un peu de start-up bashing, entre guillemets, arriver.
Mais pas beaucoup sur des start-up françaises, hein, pas tant que ça encore. Par contre, du bashing global, oui. Mais après, c'est évidemment que c'est facile de basher WeWork. C'est basher que sur le tout. Finalement, c'est basher que sur les documents publics de leur IPO. C'est pas non plus. C'est pas très. C'est une autre. Comment dire ? Ça reste du bashing, je trouve, relativement léger, finalement.
Et je regardais, tu publies quand même quelques textes aussi autour de l'intelligence artificielle, autour des données, que ce soit sur Medium ou sur le blog de Ted Haiku. Et je voulais avoir un peu ton sentiment déjà. Pourquoi tu as besoin d'échanges, enfin de donner ta vision des choses à un moment donné? Pourquoi tu as besoin de la rendre publique? Et est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle? Question un peu bateau aussi, mais quand même bien réelle pour beaucoup de gens.
Est-ce qu'il y a une bonne raison pour partager quelque chose? Moi, je pense que ça aide à réfléchir. Enfin, forcer à écrire, ça aide à réfléchir, on va dire. Parce que sinon, si on formalise jamais sa pensée, si on essaie jamais de l'écrire, finalement, ça... En fait, je pense qu'écrire, ça aide à apprendre pas mal de choses. Je pense qu'au fond, c'est pour ça que je le fais. Et après... est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle? Moi, non. Hein. Enfin, j'espère pas. Je pense pas qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle tant que ça, en tant qu'individu. Enfin, en tout cas, pas plus que d'autres choses, quoi. Enfin, faut Terminator, etc. C'est quand même, faut l'espérer un petit peu loin. Après, c'est quand même un enjeu de société. Enfin, comme je vois les choses,
j'ai l'impression qu'il y a 4 ou 5 fronts de transformation de la société, quoi. Enfin, des fronts de combat, quoi. Mmh. Il y a la planète elle-même, quoi. Le bilan carbone, etc. C'est un front de combat. Il y a la mixité, la place des femmes dans la société. Enfin, c'est un front de combat. Ça va bouger, quoi. Ça va se transformer. C'est un front de combat. Il y a la globalisation ou son inversion, quoi. C'est la position des pays occidentaux et la manière dont ils profitent de l'économie mondiale. Ça va changer. Donc ça va. Et les flux migratoires associés, ça va créer des tensions, des nouvelles manières de penser l'économie. Okay. Et je pense qu'il y a l'intelligence artificielle ou l'automatisation qui est parmi ces fronts-là. Hein, parce que finalement, la question, c'est quelle va être notre place en tant qu'humain, qui va travailler, qui va en profiter, quel niveau d'études il faudra avoir pour avoir une place dans la société dans 20 ans. Mm-hmm. En effet, ça, c'est un front de combat, quoi. Mais qui est, je pense, du même ordre de grandeur que les 3 autres en termes d'impact potentiel sur la vie des gens. Alors, probablement moins que d'autres, d'ailleurs, on va dire. Si je suis très honnête avec moi-même, mais il se trouve que c'est le seul sur lequel j'ai le droit d'avoir un avis, je pense. Mmh. Parce que finalement, sur les 3 autres, je ne me sens pas d'une légitimité particulière pour être capable... Enfin, je peux toujours avoir un avis, mais je ne pense pas d'avoir... je pense pas être capable d'avoir un avis ou d'avoir... être capable d'avoir un impact quelconque sur la vie des gens, malheureusement. Mmh. Et sur l'intelligence artificielle, je pense que... c'est intéressant d'imaginer qu'on peut avoir un impact. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que, par exemple, s'il y a plus d'outils qui aident à démocratiser la manière de fabriquer ces intelligences artificielles, potentiellement, la transformation de l'économie qui va être faite va être un peu différente. Mmh. Je pense que c'est plus Parce que moi, au moins des techniciens. Je pense que c'est plus favorable si... comment dire ? Attends, on va potentiellement partir de loin, là, mais là, c'est un peu comme si en 15-20 ans, l'ensemble des compétences des gens avaient besoin d'être transformées. Et à cette échelle-là, comme c'est 15-20 et pas 40-50, c'est pas le système éducatif qui va les changer. Mmh. Enfin, pas tant que ça, en fait. Il n'y a aucun pays, ou peut-être certains pays nordiques, qui ont les capacités réelles de changer leur système éducatif suffisamment vite pour absorber cet impact dans le changement des compétences. Mmh. Donc, en fait, ce changement des compétences, il va être fait surtout s'il est fait par les entreprises qui s'adaptent, qui donnent des nouvelles compétences aux gens, etc. Et en fait, ça arrive que si l'intelligence artificielle et ses transformations sont faites plus, entre guillemets, plus massivement par les entreprises actuelles, qui ont comme enjeu en fait, de changer les compétences des gens, et de leurs employés pour changer leur mode de production, l'optimiser, que si l'intelligence artificielle vient essentiellement de nouvelles entreprises, de nouveaux entrants qui disruptent complètement les marchés existants. Mmh. Et qui potentiellement mettent en faillite les entreprises qui n'ont pas réussi à se faire transformer. Enfin, je pense que là, il y a quand même un enjeu. C'est ça le dans l'univers économique, c'est ça le front. Je pense que c'est ça le front long terme, entre guillemets, plus que de savoir l'assistant personnel qu'on a à la maison est dangereux et nous écoute ou pas. Bon, ça, c'est un vrai enjeu politique. Mais je ne suis pas très inquiet là-dessus, parce qu'à la fin, à la fin des temps, si ça énerve suffisamment de gens, on va juste arrêter, on va dire stop. Et ça va s'arrêter, en fait.
Il suffit juste de les brancher,
les gens, voilà. Enfin, je veux dire, il n'y a pas trop besoin d'aller dans la rue, potentiellement, on le jette par la fenêtre, puis c'est fini. Enfin, ça reste assez... on arrête d'aller chez les acteurs. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à voir certains réseaux sociaux, à quel point, potentiellement, n'importe quoi qui se passe a un tel impact sur eux que, oh là là, ils vont vite revenir en arrière. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que cette bataille-là n'est pas si dure que ça à gagner, alors que la bataille des compétences, la bataille de savoir qui a un travail ou pas un travail, celle-là, elle est dure, en fait, sur 15-20 ans.
D'accord. Et toi, au sein de Dataiku, justement, qu'est-ce que tu as mis en place pour générer ce flot constant de formation, de mise à niveau ?
Le point, c'est que, c'est là où je pense que c'est ça la question de savoir si on peut avoir un impact systémique ou pas. En tant qu'entreprise, on peut avoir un avis sur plein de sujets ou avoir des bons comportements en termes de mixité, en termes d'impact écologique, en termes de mixité sociale, etc. Ce qui est important. Enfin, je veux dire, c'est hyper important. Mais à la fin, il n'y a que le produit qu'on fabrique qui peut avoir un impact systémique. Parce que tout ce qu'on fait en compte entreprise a peut-être un impact 1, mais ce qu'on peut faire en tant que produit, c'est par rapport à ça, c'est 1000, c'est 1 million, c'est 1 milliard, en fait. Et donc, est-ce que la vraie question d'Ataiku, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir un produit qui change suffisamment la capacité de développer des intelligences artificielles, parce qu'à la fin, c'est ça le sujet, pour que ce soit accessible à tellement de gens que ce ne soit pas juste quelques individus, mais potentiellement la plupart des acteurs de l'univers économique qui soient capables de s'approprier ces transformations.
Et comment tu vois le monde se former ? Enfin, il y a plusieurs scénarios, évidemment, mais sur ce sujet, sur ce front-là, ouais. Comment toi, tu l'imagines dans 10 ans ?
Je l'imagine assez naturellement comme étant des transformations beaucoup plus... Alors, la bonne question, comment je l'imagine vraiment sur 10 ans ? Je l'imagine comme étant des transformations beaucoup plus globales de tous les métiers dans lesquels... Il y a un grand changement de l'univers du travail. Et je veux dire, pas juste de fabrication et d'usine, mais même du travail de col blanc, dans lequel il y a sûrement un changement du rythme du travail, des compétences qui sont beaucoup plus vers la communication, la compréhension qui sont à développer, en même temps qu'un travail qui est beaucoup plus sur... au jour le jour sur de la donnée, en utilisant la donnée avec des systèmes qui aident à la gérer de manière plus automatique. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai l'impression que le travailleur, après c'est dans 15 ans ou 20 ans, le travailleur dans 15 ans, c'est pas pour faire Minority Report, mais c'est quelqu'un qui doit être capable de communiquer très bien avec ses pairs et qui fait bouger un écran façon Tom Cruise pour croiser des données et comprendre quelles sont les tendances ou la décision à prendre ou qu'est-ce qui se passe mal dans un des systèmes de l'entreprise.
D'accord.
Ça paraît un peu abstrait comme ça, mais à raison 15 ans, c'est peut-être ça le métier de beaucoup de gens qui actuellement sont derrière un ordinateur en train de faire des copier-coller d'un fichier Excel vers un fichier PowerPoint. Ça, je pense que ce métier-là change quand même.
Est-ce que ça te rend optimiste ? Est-ce que tu es optimiste ?
Moi, je suis plutôt optimiste, oui. Je suis plutôt optimiste. Sur cette partie-là, je suis plutôt optimiste. Je pense que cette chose-là est faisable. Je pense que par rapport après les autres enjeux de la planète, moi, j'ai un peu moins de visibilité. J'ai plus de mal à être optimiste parce que j'ai aucun contrôle.
Ok, bah écoute Florian, merci beaucoup encore d'avoir reçu. Et puis on va continuer à suivre les aventures de Dataiku. C'est quoi la prochaine actu ?
Je n'arrive pas à la prédire.
T'arrives pas à la prédire encore.
Okay.
Bonne journée.
Merci beaucoup.
Merci Florian, fondateur de Dataiku. Vous venez d'écouter Takeoff, un podcast des Échos. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ce podcast disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Pour toute l'info des Échos, retrouvez-nous sur leséchos.fr.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.